nous allons passer à la partie des questions. Peut-être tout le monde ne pourra pas intervenir, et j'en suis désolé à l'avance, mais vous pourrez continuer à discuter au buffet. Alors, là-bas au fond.
Emmanuel Lescaut, je suis ancien directeur de projet chez PSA Peugeot Citroën. Je suis maintenant à la SIA, la Société des ingénieurs automobiles français. Et je voulais signaler quand même quelque chose. J'ai trouvé tous ces débats très intéressants, très véridiques, etc. Bien entendu, ça mettra du temps, comme vous l'avez dit. On aura 10% du marché, soit en 2020. Ça veut dire qu'il reste quand même en 2020 90% du marché en thermique. Et je voudrais aussi attirer l'attention de tous les gens qui sont dans cette salle pour dire que les constructeurs français ont été anticipateurs sur le véhicule électrique de longue date, que PSA Peugeot Citroën a fabriqué 10 000 voitures dans les années et reste le premier constructeur mondial d'automobiles électriques. Cela dit, il reste beaucoup de choses à faire dans le thermique et je voudrais aussi insister pour dire que les constructeurs font énormément de choses dans le thermique et qu'il faut soutenir notre industrie automobile française et ne pas dire que nos constructeurs français ont attendu ou trop attendu. Il y a des marchés, il y a des choses qui se présentent à certains moments, il y a des opportunités, donc voilà.
Des bains s'est élevé à côté.
Jacques-Roger Machard, je voudrais témoigner d'un utilisateur de voitures électriques depuis 12 ans. Une voiture PSA, utilisation à titre domestique privé. J'en suis extrêmement satisfait pour une raison essentielle, c'est que j'ai réussi à négocier avec la copropriété dans laquelle j'ai un parking le droit de poser une prise électrique sur l'installation de la copropriété. Ils oublient de me faire payer ce que je consomme. J'ai pourtant installé un compteur pour qu'ils soient sûrs que je n'exagère pas. Si je payais ma consommation, ça me coûterait 100 euros par an au maximum, plutôt 80, parce que je ne roule que 4 à 5 000 km. Je peux avoir cet usage à ma satisfaction complète de la voiture électrique parce que j'ai à mon domicile une prise de recharge. Mais ça a été un parcours du combattant de pouvoir l'installer, et c'est là où j'attire l'attention, mais Michel Matteux et M. Pelletat l'ont évoqué, de franchir l'obstacle pour pouvoir équiper les domiciles ou les parkings de prise de recharge. C'est ça, à mon avis, le point essentiel. Sur le marché, mon petit témoignage est de dire que ce sera les gens captifs de leur voiture pour le domicile de travail. C'est ça l'essentiel du marché. Les flottes, oui, mais ce sera limité, les flottes. Je crois que Bailly a de la peine à réunir les 100 000 véhicules auxquels il s'est engagé. Mais le vrai marché domestique, ce sera le domicile de travail. Alors, ayant apporté ma petite expérience, je voudrais poser deux questions. Une question, vous avez juste évoqué sur un de vos graphiques la batterie Bolloré, lithium polymère. Est-ce que vous pourriez en dire un peu plus? Je ne sais pas si c'est à M. Pelata ou à Michel Matteux que je m'adresse. Il y a un grand mystère sur ces batteries. Où, manifestement, personne ne sait exactement ce que fait Bolloré, à moins que quelqu'un de Bolloré soit dans la salle.
Je ne suis pas sûr qu'on puisse aborder tous les aspects techniques.
Deuxième question ou suggestion à Michel Matteux qui représente EDF. Pourquoi est-ce que EDF ne vendrait pas d'électricité en boîte, c'est-à-dire en batterie? Pourquoi, plutôt que de se contenter de vendre de l'électricité au bout des fils, pourquoi n'entrerait-elle pas dans ce marché, ce qui permettrait d'optimiser les batteries comme M. Pelletat l'a évoqué et d'utiliser les possibilités du smart grid pour optimiser l'usage de la batterie?
D'accord. Une personne juste à côté a levé la main.
Bonsoir. Donc, Hakim Belkadi, Compagnie européenne des technologies de l'hydrogène. Donc, j'ai essentiellement deux questions qui s'adressent à M. Michel Matteux. La première, y a-t-il une normalisation en cours de prise de recharge spécifique? La deuxième, est-il envisagé des solutions de stockage d'électricité intermédiaire? Et si oui, lesquelles? Je tiens également à rebondir sur ce que disait monsieur tout à l'heure. Les moteurs thermiques ne sont pas morts en France, ni dans le monde. Il faut surtout travailler sur les carburants mixtes. Merci.
Il y a un monsieur ici, c'est un utilisateur de véhicules électriques, il fait 150 000 km, je ne sais plus si c'est par an, monsieur là.
Merci, je m'appelle Jean-Louis Bernard, j'ai effectivement eu un peu comme le monsieur qui est intervenu avant, une expérience d'utilisateur. J'ai eu une voiture électrique, Citroën d'ailleurs, pendant 10 ans, avec lesquelles j'ai fait 15 000 km par an.
Ah pardon, c'est 150
000. Parfaitement heureux, c'est ça qui fait 150 000 km. Bon, quand on a une voiture électrique, il y a une chose qui frappe, c'est que les gens aiment bien en parler avec vous. Donc j'ai eu l'occasion de tâter un peu les réductions des fournisseurs, des clients, des amis, des relations sur la voiture électrique. Et alors, j'ai trouvé l'exposé extrêmement complet. Je voudrais simplement renforcer deux points. Le premier, c'est que M. Pelletat l'a dit juste à la fin. Fondamentalement, je crois que la voiture électrique, pour le particulier, c'est un marché de deuxième voiture. Ce n'est pas un marché de première voiture. Alors tout le monde sait ça, mais quand on voit tout ce qui a été dit avant, c'était quand même très largement sous-tendu par l'idée qu'on cherchait à faire une première voiture. À mon avis, c'est une erreur. Et deuxième point, les gens qui ont une deuxième voiture, où ils sont ? Ben, ils ne sont pas tellement dans les zones urbaines, contrairement à ce que tout le monde dit, ce sont des rurbains. Quand vous promenez en Bretagne, où le paysage s'est mité d'habitations partout dans les 30 dernières années, vous voyez que des maisons à deux voitures. Et si le gamin a 18 ans, c'est des maisons à trois voitures. Une de ces voitures fait quoi ? Elle fait les courses, elle fait du trajet domicile-travail, qui est de plus en plus court, parce qu'avec le développement du covoiturage, c'est pour ça que votre covoiturage était bien là, les trajets sont de plus en plus courts. Et finalement, personnellement, avec une voiture qui faisait 80 km d'autonomie, j'étais parfaitement satisfait pendant 10 ans. Deuxième point, ce qui ressort des conversations avec les gens, c'est qu'effectivement, vous avez raison, les gens perçoivent la location de batterie comme du carburant. Et à ce moment-là, sur le bilan économique de la chose, le raisonnement qu'ils tiennent, ils disent, bon, tu me dis que la location de batterie, c'est 120 euros. À l'époque, c'était 120 euros. Maintenant, je suis content de voir qu'on va peut-être avoir 100 euros. 100 euros, ça fait 120 euros, ça fait 100 litres de gasoil. Si je m'achète une petite Polo ou une Citroën, je vais donc penser 4 litres au 100. Il faut donc que je fasse 2500 km par mois avec une bagnole qui a 80 km d'autonomie pour récupérer le prix du diesel. Et ça, c'est plus psychologique que proprement économique. C'est-à-dire les gens pensent que la batterie, c'est du carburant. Moyennant quoi, la voiture électrique apparaît comme très chère. Je crois qu'il faut trouver un système dans lequel il n'ait pas cette impression, et ça sera très difficile. Donc il faut peut-être leur vendre la batterie, il faut avoir des systèmes de garantie en cas de panne, etc. Mais il faut qu'ils aient l'impression qu'ils achètent une voiture et sa batterie, et non pas qu'ils louent une batterie.
Bon, on va prendre ces questions déjà. Alors, vous répondez dans l'ordre.
Bon, je me sens plus particulièrement interpellé par les questions sur le modèle d'activité dans la voiture électrique et le rôle que EDF peut y jouer éventuellement, et aussi tout ce qui est facilitateur du développement du véhicule électrique, qui évidemment nous intéresse énormément. Donc, je vais donner quelques indications sur ces deux points. Alors, s'agissant du modèle et notamment de la question de savoir si les électriciens doivent vendre de l'électricité en boîte, s'ils peuvent aller sur d'autres segments de la chaîne de valeur, je vais répondre d'une manière un peu normande, mais je pense qu'il faut répondre de manière normande. Je vais répondre de manière normande parce qu'évidemment, nous analysons tous les segments de la chaîne de valeur, et évidemment, même si nous avions décidé quelque chose, comme ce n'est pas encore public, je ne vous le dirai pas là, mais je confirme qu'effectivement, la question que se pose normalement n'importe qui dans l'industrie électrique et de façon générale dans les métiers connexes, c'est est-ce qu'il y a des endroits autres que mon métier d'origine qui présentent un intérêt dans ce fonctionnement à maillons très très nombreux qui, ça a été souligné à de nombreuses reprises, n'a rien à voir avec celui du véhicule thermique. Donc ça, la question, nous la posons. Alors en même temps, je vais relativiser parce que je pense que le modèle d'activité ne mérite ni excès d'honneur ni indignité. Je m'explique. C'est vrai qu'on va pouvoir innover et c'est vrai qu'on va pouvoir packager des choses de manière séduisante pour le consommateur et qui peut-être lui permettront plus facilement de franchir un pas qui est psychologiquement difficile. Mais en même temps, les lois de l'économie sont des lois d'airain, il faudra tout payer. Et j'avais l'habitude, dans les groupes qu'animait Jean-Louis Legrand l'été dernier, où toutes les parties prenantes étaient consultées, j'avais l'habitude de faire une comparaison avec le transport aérien. Quand vous prenez l'avion, il n'y a rien à faire. Il faut que vous payiez l'aéroport, l'amortissement de l'avion et le service de transport. Ça peut être des acteurs économiques complètement différents. Vous pouvez faire trois chèques, c'est assez rare, mais un ou deux chèques. On a connu une époque où on payait sa taxe d'aéroport en entrant dans un aéroport. C'est évidemment plus pratique de l'avoir noyé dans un chèque unique, mais en tout état de cause, il faut bien payer les trois. Donc je pense qu'il faut voir dans tous les arrangements extrêmement créatifs qui vont se mettre en place, plutôt des choses qui sont de nature à rassurer le consommateur et éventuellement à faire ces choses que certains métiers savent bien faire. Je pense aux loueurs, de transformer des coûts fixes en coûts variables, des choses comme ça qui rendent effectivement la prestation plus attractive, mais il ne faut pas voir là-dedans la panacée. Ça, c'était pour le modèle d'activité. Sur la facilitation, j'ai été très frappé par la remarque de Jacques-Roger Machard. C'est une question qu'effectivement, on se pose beaucoup, je pense, dans toutes les parties prenantes du secteur automobile. C'est qu'est-ce que pourrait faire l'État, y compris par des méthodes qui ne sont pas juste de signer des chèques, pour que les choses se passent beaucoup mieux. Et il y a sûrement beaucoup à faire. La prise électrique, jusqu'à un certain point, il peut y avoir une facilitation réglementaire. Après tout, maintenant, quand vous entrez dans un logement neuf, il a un équipement pour accueillir tous les services électroniques dont vous considérez maintenant qu'un ménage a absolument besoin. Ça vient tout seul et le cadre réglementaire l'a facilité. On peut imaginer des tas de dispositions qui, effectivement, rendent l'accès aux carburants électriques notamment, beaucoup plus facile qu'aujourd'hui, et il y a certainement des obstacles à lever, à commencer, nous l'avions bien identifié, par ce qui se passe dans les copropriétés, de manière que les gens qui accèdent effectivement facilement à la mobilité électrique soient représentatifs de toutes les catégories, particulièrement de toutes les catégories de logements. Donc il y a certainement un front non financier à ouvrir du côté des pouvoirs publics pour faciliter les choses, c'est le front réglementaire, et il y a aussi, l'un de vous l'a souligné, celui de la normalisation. Bien évidemment, et je pense que le secteur automobile va en parler mieux que moi, il y a un énorme travail qui se fait, notamment entre les distributeurs électriques en Europe. Ce n'est pas facile, on n'a pas les mêmes habitudes. Il y a des pays où on connaît plutôt le courant à 400 volts et où il est facilement triphasé. Il y a des pays où il est plus difficilement triphasé et on le connaît plus à 240 volts. Et il y aura beaucoup de travail à faire, mais tout le monde est convaincu que si on ne résout pas ces difficultés, on ne pourra pas avancer. Et il y a, je crois, une assez grande détermination des parties prenantes, en particulier autour de la prise, qui est évidemment un enjeu important, pour qu'on n'ait aucune difficulté à fonctionner, en particulier immédiatement dans l'espace européen.
Juste un mot, le gouvernement français sur les infrastructures là, a compris l'enjeu qu'il y avait et l'enjeu a démarré vite aussi en France en mettant 900 millions d'euros sur la table qui avait été annoncé par Jean-Louis Borloo fin cet été. Et je pense que ça va aider ça à la mise en place de cette infrastructure dont vous parlez. Il y a aussi un certain nombre de décisions réglementaires qui ont été prises. Un immeuble de bureau ne peut plus être livré sans avoir le parking et les recharges qui vont avec après 2015, je crois. Etc, etc. Je ne connais pas le détail, certains de gens dans la salle doivent le savoir, mais ça c'est parti. Sur la location à la vente, ce qui va se passer au début, c'est que les commuteurs, ça c'est un prix qui va descendre bien évidemment, mais les commuteurs qui font des distances plus longues vont démarrer, et puis au fur et à mesure que les coûts vont baisser, on va être capable de baisser ce prix-là. Là-dedans, il n'y a pas la valeur du smart grid, il y a une valeur assez basse de la valeur de reprise, etc, etc. Ça c'est des choses sur lesquelles on est encore en train de travailler. Je rappelle qu'on sort en grande série dans 18 mois, donc on va encore étudier. Mais je voulais donner là un ordre de grandeur. Et le directeur de programme chez nous m'a dit, tu dis surtout pas moins que ça, parce que je ne sais pas encore suffisamment bien ce que je pourrais faire. Voilà. Sachez quand même que là-dedans, il y a un différentiel sur le coût de maintenance qui est assez significatif. Hein. C'est-à-dire que la voiture électrique en maintenance, ça ne coûte pas du tout le même prix qu'une voiture thermique.
Bon, je vais prendre trois questions. Riveline.
Oui, Riveline, École des Mines de Paris. J'ai l'impression que les constructeurs français mettent un dynamisme et une foi particulière dans la voiture électrique, et j'aimerais avoir un aperçu du point de vue des autres grands constructeurs mondiaux sur le sujet. Une hypothèse intuitive, c'est qu'en France, on y croit particulièrement, parce que notre électricité est essentiellement nucléaire. Est-ce que cette intuition est fondée ?
Jean Verquin.
Jean Verquin, adhérent de l'École de Paris. Je n'ai pas entendu un mot sur les véhicules tout-terrain, et spécialement en montagne. Il s'agit d'un marché local, où la recharge est facile la nuit et où il y a quand même pas mal à faire. Est-ce qu'il y a des constructeurs qui s'en occupent ?
Merci André Portnoff, Futurible. Une remarque et deux questions. La remarque, c'est qu'il faut faire attention au discours déculpabilisant du genre « il y a 10 ans, tel constructeur français a fait de belles choses ». C'est le discours de France Télécom vis-à-vis d'Internet avec le Minitel. On sait ce qui est arrivé. C'est le discours que tenaient les éditeurs d'encyclopédie papier un an avant de mourir. Christophe Midler a évoqué l'exemple de l'électronique. L'histoire de l'électronique, c'est qu'à chaque mutation technique, les leaders sont morts ou déqualifiés et de nouveaux entrants prennent le relais. On a peu évoqué la possibilité d'arriver de nouveaux entrants qui n'ont jamais fabriqué une voiture, qui sont dans un métier tout à fait nouveau et qui donc n'ont pas les pesanteurs culturelles qui font qu'il est difficile pour un leader d'innover totalement et de concevoir totalement un véhicule nouveau. Alors, qu'en pensez-vous ? Et deuxième question, Patrick Pellatin a évoqué avec raison la nécessité d'un smart grid en France pour aider le développement du véhicule électrique, mais j'ai cru comprendre que le smart grid n'intéresse pas beaucoup les esprits jacobins et qu'il n'y a pas d'acteurs vraiment engagés là-dessus. Alors, est-ce que je me trompe et j'espère me tromper ?
Voilà, on va déjà répondre à ces questions.
Non, c'est pas parce qu'une entreprise est grande qu'elle ne peut pas être agile. Hein. Il y a quand même des contre-exemples intéressants. Motorola est né avec les semi-conducteurs mis dans les missiles de l'armée américaine et ils sont toujours bien en vie. IBM est né autrement. Ils ont fait une révolution interne en passant fondamentalement dans leur business la production d'ordinateurs à la production de services. Ils sont toujours bien en vie. Donc j'espère que Renault sera là aussi. Maintenant, des nouveaux venus. Moi, je vais vous dire, mon angoisse première, c'est pas... Il y en a quelques-unes dans la trentaine de banderilles que Philippe Hersman a plantées sur le dos du véhicule électrique. C'est vrai, il y en a. Mais la plus importante, c'est les Chinois. C'est BYD. BYD, c'est un nouveau venu. Il a fait, lui, d'abord des batteries, d'abord pour les vélos, puis pour les scooters, puis il fait pour les voitures. Puis il a dit que finalement, il pouvait aussi faire des voitures. Et il est en train de faire des voitures. Il est dans le plus gros marché du monde maintenant. Probablement le plus gros marché potentiel de véhicules électriques. Aussi, et si on ne court pas assez vite, bah, ils pourraient se retrouver devant nous. Quoi. Donc ça, moi, je pense que c'est quelque chose, sachez-le, qu'on a en tête. Est-ce qu'il y a d'autres constructeurs dans le monde qui, si vous écoutez les discours, pas grand monde. Il y a PSA, évidemment. Il y a Volkswagen qui a fait une conférence au mois de septembre à tous les analystes de l'industrie automobile en leur disant « le véhicule électrique, c'est la bonne solution. Le véhicule hybride, c'est une solution qui n'a pas beaucoup d'avenir ». Et ils ont rajouté, le véhicule électrique, c'est très bien, mais pour 2030. Et puis, un mois et demi après, ils ont embauché M. Von Neumann, ancien PDG de Continental, qui est probablement la personne au monde, en dehors de Renault et Nissan, qui connaissait le mieux le projet, les projets de Renault et Nissan, puisqu'ils font la première génération de moteurs pour nous. Il rapporte directement à M. Winkerton, et il est très actif en ce moment, dans les bureaux d'ingénierie et chez les fournisseurs de Volkswagen. Donc je pense que ce n'est pas exactement par hasard. Je l'ai dit, je crois, à Toyota. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui ne travaille pas avec des équipes conséquentes sur ces sujets-là.
Mais ils ne le disent pas forcément, c'est ça ?
Voilà.
Juste un mot pour rassurer sur les smart grids, ou en tout cas sur ce qui est nécessaire en l'espèce, c'est-à-dire du comptage un peu plus communicant qu'aujourd'hui. À la limite, je pourrais dire juste une phrase, ça va se faire parce que c'est obligatoire. Puisque maintenant, la législation européenne va contraindre à équiper rapidement, à 80% au moins, les réseaux de compteurs communicants. Mais ça se fera aussi parce que, de toute façon, les acteurs français étaient engagés. Donc la commission de régulation de l'énergie vient de terminer une consultation associant ERDF, le gestionnaire du réseau de distribution, et les fournisseurs, plus un certain nombre d'autres parties prenantes, pour définir les fonctionnalités du compteur communicant qui sera prochainement déployé en France. L'expérimentation commence l'an prochain. On ne connaît pas encore le calendrier du déploiement massif, mais il se produira en tout état de cause vraisemblablement pendant cette décennie et même avant la fin. Et les fonctionnalités qui sont attendues pour faire ce dont le véhicule électrique a besoin sont en fait extrêmement rudimentaires. En fait, on a besoin de deux choses. On a besoin d'avoir des tarifications plus subtiles qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une combinatoire assez pauvre, d'heures pleines et d'heures creuses, pour faire payer l'électricité. Demain, on pourra avoir des plages un peu plus nombreuses. Pour vous donner un exemple, on pense toujours au creux de la nuit, mais il y a un creux vers l'heure du déjeuner. Et ben, si on avait une tarification astucieuse, on pourrait se servir du creux de l'heure du déjeuner. Donc ça, c'est typiquement ce que ces compteurs savent faire. Ils sont déployés en masse en Italie. Les compteurs, enfin, il n'y a pas de difficulté particulière. Et il y a autre chose qu'on sait très bien faire aussi avec un compteur pas très compliqué, qui est à un moment où on considère que la demande locale ou nationale est un peu excessive, de couper, avec l'accord contractuel évidemment du client, de couper pendant une petite durée un usage, ce qui ne dérange pas l'utilisateur. Et ça, on pourra le faire aussi si, au moment de la journée, par malheur, on considérait, encore une fois, Patrick Pellatin l'a dit, c'est quelques pourcents probablement de la consommation totale, mais si on considérait qu'il y a un peu trop de demandes électriques à une heure où des véhicules chargent, on pourra en plus manipuler des petites durées de charge. Ces deux choses sont vraiment des fonctionnalités simples de compteurs qui existent déjà et sont utilisées dans un certain nombre de pays.
Oui, je pourrais juste rajouter un petit peu par rapport à la remarque sur l'évolution des firmes. Moi, l'une des choses qui me fascine dans l'automobile, c'est la capacité à se repenser périodiquement quand la trajectoire mène à une voie sans issue. Je veux dire, de Ford à Sloan, de la gestion métier dans les années 70, la gestion de projet, le flux tendu, etc. On a un secteur qui est capable de se repenser en profondeur dans ses fonctionnements. Hein. Et c'est ça qui fait qu'elle survit. Il y en a d'autres qui, à mon avis, ont beaucoup moins cette capacité-là. Il y a une chose qui est liée à ça, sur laquelle je voudrais insister, c'est le fait qu'on a tendance dans ce débat un peu à naturaliser, et ça va peut-être faire plaisir à professeur Riveline, j'ai l'impression qu'on a une tendance à naturaliser les coûts, à prendre les coûts comme un résultat de nature. Et Patrick Pelletta a insisté sur le fait que quand vous mettez des centaines d'ingénieurs sur un problème, ça change l'ordre de grandeur des coûts. Alors, nous, on a fait, dans la recherche qu'on mène actuellement, on a fait une petite enquête un peu exotique sur la question des infrastructures. On a été voir une autre innovation qui a un vrai problème d'infrastructure, c'est l'Airbus A380. L'Airbus A380, il avait la mauvaise propriété de ne pas atterrir sur les aéroports existants. Donc, il y avait un problème de coût d'infrastructure. Alors, ils ont commencé à prendre le problème d'une manière classique, c'est-à-dire demander aux aéroports, etc., d'étudier le problème, puisque ce n'était pas leur boulot. Hein. Le résultat des courses, je ne vous donnerai pas le montant, mais ça mettait l'équation de la 380 par terre. Ils ont dit, OK, on s'en charge, on nomme un responsable infrastructure à 380. Donc, ils ont changé le processus de conception. Ils s'en sont occupés différemment de la manière classique. Le résultat des courses, c'est qu'ils ont baissé première estimation, de 30%. Donc la notion de coût d'infrastructure, suivant qui le regarde, qui travaille dessus, comment on travaille dessus, avec qui, qu'est-ce qu'on optimise, etc., je dirais, il n'y a pas une valeur absolue, naturelle, indépendante du système de négociation, du système de travail. Voilà. Et donc je crois qu'on est au début des cours d'apprentissage sur tous ces sujets-là, et dire ça va être comme ça, je dirais, ça sous-estime justement les ruptures. Les ruptures dans les processus de conception qui font que, on prend le problème différemment.
Jean-René Brunetière, ministère du Développement durable. J'ai conduit une voiture électrique pendant quelques années à ma grande satisfaction, comme les autres, avec en plus l'impression d'un tapis volant, quoi. C'est très silencieux, c'est, je recommande. L'un des plaisirs pratiques, c'était que ça se rechargeait sur n'importe quelle prise courante. Il suffisait une prise avec une prise de terre. Et souvent, j'ai été dépanné parce que j'ai une très longue rallonge et quand j'étais au bord de la panne, je me branchais là où il y avait une prise. On en trouve toujours si la rallonge est assez longue. Je ne comprends pas pourquoi on fait une prise spéciale maintenant qui va tout compliquer.
Christophe Midler me disait en aparté, tu vois, quand quelqu'un a une voiture électrique, il ne raisonne pas du tout comme ceux qui n'en ont pas.
D'où l'importance de l'expérience électrique qui est aujourd'hui totalement inexistante en France. Donc effectivement, tous les processus qui vont diffuser l'expérience électrique, oui, sont importants.
Alors, on va passer ici.
Alain Bernard, Modulo Watt. Bon, je voulais d'abord faire une remarque en disant que dans les gens qui sortent du cadre, il y a l'équipe Modulo Watt qui propose un système un peu original pour le véhicule électrique en le concevant comme un système. Et que l'exposition qui existe aujourd'hui au 64 bis avenue de New York est ouverte jusqu'au 20 février. Donc pour ceux que ça intéresse, ils peuvent y aller. Deuxième remarque, on a toujours l'impression, quand on entend les discours sur le véhicule électrique, que l'électricité ne coûte rien. Je voulais simplement rappeler qu'il y a 8 kWh par litre d'essence, et que donc même quand j'ai de l'essence à 1,40€, ça ne fait que 19 centimes, et que le prix public de l'électricité, pour un abonné normal, est aux environs de 10 centimes. Dans les 19 centimes de l'essence, il y a déjà 80% de taxes. Et elles n'y sont pas encore dans les 10 centimes. Il n'y a pas le coût de la distribution au moment où ça vous arrive dans votre véhicule et quand il faudra payer le réseau de prise. Donc je crois qu'on sera obligé de facturer l'électricité. C'est vrai, très sympathique d'avoir des prises où on se branche sans payer. Ça va bien tant qu'il n'y a pas de véhicule électrique. Le jour où il y en aura beaucoup, il faudra la payer. Les seuls systèmes qui permettront de payer des toutes petites sommes comme ça, les gens qui savent le faire, c'est les opérateurs de télécom avec des notions qui remontent à très longtemps, qui sont les tickets télécom. Et donc, il faudrait mettre en place une infrastructure de paiement un peu plus légère que le système actuel avec des compteurs homologués, etc. Je rappelle aussi que pour le moment, dans les textes, il est interdit de revendre de l'électricité. Et que ce serait peut-être intéressant de s'occuper de supprimer cette petite clause, parce que sinon, ça va être difficile de vendre, d'alimenter les véhicules électriques autrement que de façon gracieuse.
Pierre Faure, retraité, ancien de l'École des Mines. On n'a pas beaucoup parlé finalement du véhicule hybride. Monsieur Pelletard a dit tout à l'heure que ce n'est pas une solution à long terme. Alors bien sûr, en termes de bilan de CO2, ça n'a pas l'air génial. Mais je voulais poser la question à monsieur Pelletard. Est-ce que justement, c'est quand même pas en complément, je ne dis pas évidemment comme modèle directeur, mais en complément quelque chose qui reste intéressant, même si ce n'est pas une rupture du dominant design, dans la mesure où c'est quand même pour un seul véhicule avec une utilisation polyvalente, une optimisation du fonctionnement qui paraît assez séduisante, même si encore une fois, ce bilan de CO2, on est bien d'accord sur le long terme, c'est pas génial. Mais quand on a dit tout à l'heure qu'il allait avoir un besoin d'une coexistence importante et très durable, pas peut-être au sens du développement, mais entre le moteur thermique et le moteur électrique, d'accord, est-ce que la question ne mérite pas d'être posée? Et deuxième point, est-ce que M. Pelletard pourrait nous dire si, à sa connaissance, Toyota, par exemple, envisage de poursuivre dans sa stratégie ou est-ce qu'il envisage une stratégie complètement différente par rapport aux véhicules hybrides?
Je suis content que vous posiez la question parce que j'allais revenir sur le sujet, parce qu'en préparant la séance, on avait discuté et j'avais entendu une formule forte: le véhicule hybride, c'est l'idée la plus stupide. Naturellement, les opinions exprimées en public sont toujours un peu plus nuancées, mais ce que j'avais compris, c'est qu'un véhicule électrique, pour qu'il ait une belle autonomie, il fallait qu'il ait le moteur d'un véhicule électrique, mais on rajoute un moteur thermique, ce qui finalement coûte assez cher. Même très cher, et ça peut permettre d'investir dans des infrastructures ailleurs. Alors, est-ce que j'ai bien compris ce qui a été dit ou...
Bon, alors, je démarre sur ce sujet-là. Il y a véhicules hybrides et véhicules hybrides. L'hybridation des véhicules, c'est-à-dire utiliser un peu d'électricité pour améliorer le fonctionnement d'un moteur et d'une boîte de vitesse dans une voiture, ça, tout le monde est en train de le faire. C'est-à-dire que les voitures qui vont sortir en 2012-2013 auront toutes une mini-hybridation avec l'utilisation d'électricité, éventuellement un tout petit peu de stockage d'électricité ou pas. Mais ça, c'est quelque chose qui est en train de se développer. L'hybridation complète avec, j'ai une grande batterie que je vais recharger comme un véhicule électrique et puis quand j'ai plus assez d'autonomie, là, je vais me mettre à fonctionner avec un véhicule thermique. Ça donne des voitures qui sont extrêmement chères puisqu'il faut avoir toute la voiture électrique avec un petit peu moins de batterie et tout le véhicule thermique avec un petit peu moins de réservoir d'essence ou de gasoil. Ça fait des voitures horriblement chères et vous ne trouvez pas d'équation économique qui puisse fonctionner dans ce cas-là, à notre avis. Hein, c'est pour ça. Mais le début de l'hybridation, il arrive là en 2011-2012, dans les voitures, en tout cas en Europe. Il faut simplement savoir de quoi on parle.
Alors, pour rebondir sur le dernier point, bon, comme j'ai dit, nous ne sommes adeptes d'aucune religion révélée. Et par conséquent, nous envisageons toutes les perspectives. Nous, il nous semble que l'équation économique d'un véhicule hybride rechargeable, dont la batterie serait sensiblement plus petite que celle d'un véhicule électrique, mérite d'être regardée, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans les perspectives de développement. La coexistence des deux choses, l'électrique avec ses déplacements qui sont très très nombreux, hein, on l'a dit tout à l'heure, avec ses déplacements très nombreux qui tombent dans l'autonomie effectivement de la batterie seule, et l'hybride rechargeable, ça nous paraît deux orientations compatibles au démarrage. Alors je voudrais répondre rapidement à une ou deux questions qui portait plus sur le secteur électrique. Et d'abord, je voudrais commencer par dissiper un malentendu. Je ne sais pas quelles sont les intentions de nos concurrents, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais pour notre part, nous n'avons pas l'intention de donner l'électricité. Donc nous pensons que ce qui va se faire, c'est qu'on va la vendre, comme d'habitude. Et ça pose effectivement des problèmes. Alors le problème de l'achat pour revente est un problème de législation et de réglementation qui peut certainement être résolu. Mais indépendamment de ça, il y a deux voies qui sont étudiées à grande échelle actuellement dans différents pays d'Europe. Une qui est extrêmement simple, qui est d'associer un seul fournisseur à un point de livraison, ce qui n'empêche pas d'avoir plusieurs, voire de nombreux fournisseurs sur un espace urbain donné, de même que le fait que vous ne puissiez acheter que de l'essence totale dans une station totale ne vous empêche pas de chercher une station d'un concurrent d'une autre marque. Et l'autre, qui est beaucoup plus compliqué en termes de système d'information, mais qui est envisagé pour des raisons de concurrence équitable par certaines autorités publiques notamment, l'autre qui s'apparente effectivement au distributeur de billets, et qui consisterait à dire qu'il n'y a plus cette association biunivoque entre un point de vente et un fournisseur, et de même que votre distributeur du coin de la Société Générale reconnaît que vous êtes client d'HSBC et débite un compte HSBC, on pourrait tout à fait imaginer que des cartes réalisent la même opération pour l'achat de carburant électrique sur la voie publique. Ça pose des problèmes de système d'information de coûts, toutes ces choses sont actuellement à l'étude, et bien entendu, comme on n'a pas d'expérimentation à très grande échelle, le marché et les réglementeurs n'ont pas encore tranché. S'agissant de la normalisation, je vais être très bref. Il y a malheureusement deux raisons puissantes qui plaident pour la normalisation et elle va se faire, effectivement, peut-être pas avec une prise très rudimentaire. La première, c'est qu'on a désormais des exigences de sécurité élevées. Il ne serait pas accepté, et d'ailleurs ce serait dramatique pour le développement du véhicule électrique, hein, il ne serait pas accepté qu'on plaisante le moins du monde avec les règles de sécurité. Donc c'est des prises effectivement un peu plus compliquées. On les branche, on les débranche souvent. C'est des prises un peu plus compliquées que les prises ordinaires. Et d'autre part, il faut pouvoir utiliser effectivement l'accès au carburant dans de nombreux endroits d'espaces géographiques relativement divers. Et ça, ça appelle une normalisation. Donc il y aura effectivement un modèle qui s'imposera. C'est un peu plus cher que le modèle ordinaire. C'est un peu plus compliqué que de mettre sa rallonge chez ses amis. Mais c'est effectivement ce qui va se passer.